L'heure du journal présentée par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Le coronavirus a fait une deuxième victime en France, un enseignant domicilié dans l'Oise qui a priori n'avait pas séjourné dans les zones à risque. Nous ferons le point avec Véronique Robérotte. Sur le plan mondial, les nouveaux cas de Covid-19 sont désormais moins nombreux en Chine que dans le reste du monde. L'Iran, la Corée du Sud et l'Italie sont les pays les plus touchés. Les précisions de Marie-Pierre Véraud. En Inde, les tensions interreligieuses virent à l'affrontement meurtrier. 24 morts depuis deux jours à New Delhi, la capitale, dans des batailles rangées entre hindous et musulmans. Le reportage de notre correspondant Sébastien Farcy. En France, la filiale Crédit de BNP Paribas lourdement condamnée dans l'affaire des prêts toxiques Helvet Immo. La banque devra payer des dizaines de millions d'euros de dommages et intérêts aux 4600 plaignants. Les explications d'Anne Lorchouin. Enfin, le procès des époux Fillon, une nouvelle fois suspendu. Les juges vont examiner deux questions prioritaires de constitutionnalité. Un procès suivi par Antoine Maret. La crise du coronavirus est désormais un enjeu majeur de santé publique en France. Le Covid-19 a provoqué un deuxième décès dans notre pays. Il s'agit du premier ressortissant français victime de la maladie. Sur les 17 cas recensés, on compte 11 guérisons et 4 personnes toujours hospitalisées. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
La deuxième victime en France est un enseignant originaire de l'Oise et on ne sait pas où il a pu contracter le virus.
L'Agence régionale de santé, l'ARS des Hauts-de-France, l'a fait savoir cet après-midi. Midi lors d'une conférence de presse, cet enseignant de 60 ans, d'abord hospitalisé à Creil, puis admis hier soir en urgence à la Pitié-Salpêtrière à Paris, décédé quelques heures plus tard d'une embolie pulmonaire massive, ne s'est pas rendu dans des zones jugées à risque, tout comme la deuxième personne, un homme de 55 ans, actuellement en réanimation au CHU d'Amiens dans un état grave. Les autorités sanitaires françaises cherchent activement à déterminer l'origine de la contamination des deux patients infectés. Ce que l'on sait, c'est que l'enseignant du collège de Crépy en Valois, dans l'Oise, décédé la nuit dernière, était en arrêt de travail depuis le 12 février inclus, n'a pas fréquenté son établissement scolaire depuis cette date. Dans la mesure où la période d'incubation de 14 jours est désormais écoulée, on devrait déjà savoir s'il a contaminé ou pas des enfants, des collègues sur son lieu de travail. L'établissement scolaire concerné est actuellement, à cause des vacances scolaires, donc fermé. Il est possible qu'il ne rouvre pas lundi, expliquait la rectrice de l'Académie d'Amiens, Stéphanie Dameron.
Son ouverture, lundi, est en cours d'évaluation et la décision sera donnée d'ici 24 heures. Il tient également à souligner le travail partenarial avec l'ARS afin notamment d'identifier le plus rapidement possible les personnes qui ont pu être en contact avec cet enseignant, tout en rappelant que la période d'incubation est terminée. Quoi qu'il en soit, parce que c'est aussi ça qui est important, une solution de continuité pédagogique avec des enseignements à distance va être proposée et sera prête dès lundi.
Depuis hier soir, une cellule de crise travaille à l'identification des personnes avec lesquelles les deux hommes des Hauts-de-France ont été en contact rapproché, leur famille, des amis, du personnel médical aussi ailleurs et notamment à Compiègne, d'autres patients. En tout cas, face à ce nouveau cas mortel, le ministère de la Santé devrait ce soir réitérer ses mesures de précaution. Il est notamment demandé aux parents de retour de zones à risque, Chine bien sûr, Italie notamment, de ne pas envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires, les crèches et d'éviter toute sortie qui ne serait pas impérative.
Véronique Robérotte, merci. Face à l'ampleur de la crise, Édouard Philippe recevra demain matin les principaux responsables politiques. Sont conviés à Matignon les chefs des groupes parlementaires et les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Le Premier ministre répond à la demande formulée par le patron du Parti Socialiste. Olivier Faure avait exhorté hier Édouard Philippe à faire toute la transparence sur la gestion de l'épidémie. Par ailleurs, plusieurs responsables politiques ont demandé aujourd'hui que l'on interdise aux supporters italiens de la Juventus de Turin d'assister ce soir à Lyon au match contre l'Olympique Lyonnais. Marine Le Pen, Éric Ciotti ou Ségolène Royal invoquent le principe de précaution. Réponse du ministre de la Santé Olivier Véran. Il n'y a pas lieu d'empêcher la venue des supporters turinois car la ville de Turin est à 200 km environ des principales zones touchées par le coronavirus en Italie. Sur le plan mondial, la liste des pays touchés par l'épidémie ne cesse de s'allonger. Une quarantaine aujourd'hui. Un premier cas a été signalé en Amérique du Sud et l'on dénombre désormais 44 morts en dehors de la Chine. Marie-Pierre Véraud, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre quotidien de nouvelles contaminations dans le monde est supérieur à celui des nouveaux cas en Chine.
au point que Pékin impose une quarantaine aux arrivants de pays gravement touchés par l'épidémie, 2 semaines d'observation. La municipalité, qui pourrait être suivie par d'autres, ne précise pas quels pays sont visés, mais effectivement, ce mercredi a vu un renversement. Le pic pourrait avoir été atteint en Chine, alors que l'épidémie se propage à présent dans le reste du monde, où l'on a donc enregistré davantage de nouveaux cas, 427 contre 411 en Chine. Si l'on exclut ce pays d'où est partie l'épidémie, 37 États ont actuellement détecté des cas de coronavirus, 2790 au total et 44 morts. Selon le dernier décompte de l'OMS, rappelons-le, il y a eu plus de 2700 morts pour l'instant du coronavirus en Chine. En dehors de ce pays, pour l'Asie, c'est la Corée du Sud qui est le premier foyer mondial, 12 morts. Plus de 1100 personnes contaminées. Viennent ensuite l'Iran, 19 morts, et la crainte que les autorités ne soient pas totalement transparentes. Le Japon, où le gouvernement a demandé d'interdire les grands rassemblements dans les prochaines semaines. Premier foyer en Europe, l'Italie, 12 morts, la péninsule qui a d'ailleurs connu une épidémie de panique. En Espagne, où vivent 240 000 Italiens, les mesures de prévention ont été renforcées. En 24 heures, le nombre de cas s'y est multiplié pour atteindre une dizaine. Pour l'instant, 9 pays européens ont confirmé des cas de coronavirus. L'Amérique latine est à son tour touchée avec un premier cas confirmé au Brésil. En Afrique, pour l'heure, seule l'Égypte et l'Algérie se disent touchés. Mais là encore, le nombre de pays devrait croître. Aucun ne peut se dire épargné. Les États-Unis le reconnaissent. La question, ont déclaré les autorités sanitaires américaines, n'est pas de savoir si nous aurons des cas de coronavirus, mais quand.
Marie-Pierre Véraud, merci. Cette crise du coronavirus a bien sûr un impact sur l'économie mondiale. Première concernée, les entreprises qui travaillent avec la Chine en termes d'échanges ou d'implantation industrielle dans le pays. Un exemple, ce soir, le groupe PSA, le constructeur automobile français, a été obligé de prendre un certain nombre de mesures. On écoute son PDG, Carlos Tavares.
Nous avons rapatrié tous nos collaborateurs et qu'ils sont en bonne santé. Ils sont sortis de la période de quarantaine et que nos collaborateurs chinois en Chine sont également en bonne santé. Donc c'est le point le plus important que je veux aujourd'hui partager avec vous. En ce qui concerne la mise en opération de nos usines, elle est totalement à la main des autorités chinoises. C'est les autorités chinoises qui décident, pas nous, en fonction de la situation sanitaire du pays et de la situation sanitaire de la région du Hubei dans laquelle nous avons nos usines. La situation est donc à leurs mains, c'est pas nous qui décidons. Nous avons, du point de vue commercial, un stock important de véhicules. Donc si les clients veulent commander des voitures, nous pouvons les livrer puisque nous avons du stock. Donc pour l'instant, le fait que les usines sont arrêtées n'est pas un problème pour le business de l'entreprise. Mais évidemment, c'est un problème sanitaire et tout ce qu'on pourra faire pour contribuer à la résolution de ce problème-là, nous le ferons bien entendu.
Carlos Tavares, le patron du groupe PSA, il répondait à Hakim Kasmi. En Inde, les affrontements intercommunautaires ont pris une dimension meurtrière depuis lundi. 24 morts et plus de 200 blessés à New Delhi. Il y a eu de véritables batailles rangées entre hindous et musulmans dans le nord-est de la capitale. Des affrontements autour de la nouvelle loi sur la citoyenneté indienne. Une loi accusée par ses détracteurs de cibler les seuls musulmans. Le gouvernement indien a déployé des centaines de paramilitaires dans les rues pour maintenir un calme précaire. Le reportage à New Delhi de Sébastien Farcy.
La longue avenue de Jafarabad s'est transformé hier en une ligne de front dans le combat entre hindous et musulmans. Les hindous étaient plusieurs centaines et armés de sabres et pistolets, et surtout ils auraient reçu le soutien de la police, comme l'affirme Ishrat Ali, un habitant.
20 ou 25 policiers sont arrivés ici avec cette foule de 500 à 700 personnes et ont commencé à tirer sur les musulmans. Un garçon est mort dans cette ruelle.
Ce témoignage est confirmé par un hindou qui préfère rester anonyme et qui a tout vu depuis son appartement situé sur l'avenue.
La police s'est trouvée avec les hindouistes et a chargé avec eux en envoyant du gaz lacrymogène.
Un dirigeant du parti nationaliste hindou au pouvoir avait menacé dimanche de telles violences si la police ne délogeait pas le sit-in organisé sur l'avenue en opposition à la loi controversée sur la citoyenneté. Mais pour Arunesh Pandey, un habitant hindou du quartier, ce ne sont pas les hindous qui sont à l'origine de ces violences.
Eux n'ont fait que chanter des chants religieux. Ceux qui ont jeté des pierres, ce sont tous ces réfugiés bangladais et pakistanais. Ils s'opposent à la loi sur la citoyenneté et complotent contre notre pays pour salir l'image de Narendra Modi à l'étranger. Ce sont des traîtres, car aucun vrai indien ne ferait cela.
Le calme est revenu ce soir dans le nord-est de la ville après le déploiement de centaines de paramilitaires. Mais une nouvelle défiance entre hindous et musulmans est née dans ce quartier qui n'avait jamais connu de telles violences religieuses.
Sébastien Farcy, correspondant en Inde. L'Allemagne a-t-elle sous-estimé le poison du racisme? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat après ce journal. L'Allemagne toujours sous le choc, une semaine après l'attaque raciste de Hanau près de Francfort. Le tribunal de Paris a condamné aujourd'hui la filiale Crédit de BNP Paribas dans l'affaire Helvet Immo. Il s'agit de ces prêts libellés en francs suisses qui ont coûté une fortune à plus de 4600 emprunteurs de CTLM. BNP Paribas Personal Finance a été reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses et de recel de ce délit. Outre l'amende de 187 500 euros, la banque devra verser des dizaines de millions d'euros aux emprunteurs lésés. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir.
On peut dire que le tribunal n'a trouvé aucune circonstance atténuante à la filiale Crédit de BNP Paribas.
Oui, et son jugement longuement motivé a été accueilli par des soupirs de soulagement, des pleurs étouffés même, et une salve d'applaudissements. Ils étaient venus très nombreux, les emprunteurs floués de cette filiale de la BNP, dont une large partie avait suivi les 3 semaines de procès en novembre dernier. On rappelle donc que ces 4600 emprunteurs partie civile se sont retrouvés endettés à vie après avoir contracté un prêt immobilier indexé sans qu'ils le sachent sur le franc suisse, une devise qui s'est envolée après la crise de 2008. Le tribunal a estimé que ces emprunteurs avaient été trompés sciemment par la BNP qui avait dissimulé le fait que ce prêt était soumis à un risque de change. Car selon la juge, si ce risque avait été mentionné de façon explicite, les consommateurs n'y auraient certainement pas souscrit. Une décision donc qui satisfait pleinement l'un des avocats de la défense, maître Constantin Vallet.
La justice a donné raison aux emprunteurs sur l'ensemble des points, à savoir que la banque les a trompés non seulement sur l'existence mais également l'importance du risque de change, les a trompés sur le contrat lui-même qui ne permettait pas à ces consommateurs de comprendre le risque dans lequel ils s'engageaient, et le tribunal a été extrêmement ferme dans sa condamnation, tant s'agissant de l'amende puisque le tribunal a prononcé la peine d'amende maximale encourue, et que par ailleurs le tribunal a décidé d'indemniser le plus largement possible les consommateurs concernés. Je note également que le tribunal a pris soin, ce qui est très rare, de prononcer l'exécution provisoire, c'est-à-dire que la banque devra indemniser les victimes sans attendre la décision d'appel.
Et ces indemnisations au titre des préjudices financiers et moraux devraient se chiffrer en dizaines de millions d'euros. La BNP devrait également verser 2 millions d'euros à 2 associations de consommateurs, la CLCV et UFC Que Choisir. L'avocat de la banque n'a pas indiqué pour l'heure si elle comptait faire appel.
Anne-Laure Chouin, merci. Justice toujours. La deuxième audience du procès des époux Fillon n'aura pas duré bien longtemps. Aujourd'hui, moins de 2 heures, les juges se sont retirés pour examiner 2 questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les avocats de la défense. Rappelons que François et Pénélope Fillon sont jugés dans le cadre de l'affaire de l'emploi présumé fictif de Pénélope. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous revenez du palais de justice et après un faux départ lundi, le procès Fillon a démarré sur des questions de procédure.
Et tout d'abord, les 3 prévenus écoutent la présidente du tribunal lire les détails des délits qui leur sont reprochés. Pénélope Fillon se trouve entre ses 2 anciens employeurs, son mari François Fillon et l'ex-suppléant de celui-ci, Marc Joulot. Ils sont tous 2 soupçonnés de l'avoir rémunéré avec de l'argent public pour des prestations fictives d'assistante parlementaire. C'est l'avocat de Pénélope Fillon qui plaide la première QPCL porte sur les délais de prescription. Maître Pierre Cornu-Gentier estime que les faits qui concernent sa cliente sont prescrits. Il attaque la constitutionnalité de la jurisprudence qui permet de faire remonter très loin dans le temps les poursuites concernant des faits dissimulés. Pour Pénélope Fillon, le début des faits remonte à 1998, il y a plus de 20 ans. Que serait un grand procès sans QPC, répond le procureur sur le ton de l'ironie. Et qu'importe que François Fillon en son temps n'ait pas été le plus défenseur de cette QPC, le plus fervent défenseur, ajoute-t-il. Pour l'accusation, ses soupçons d'emploi fictif sont des infractions dissimulées. Tout a été fait pour qu'un minimum de personnes aient connaissance de ces emplois. C'est l'article du Canard enchaîné du 25 janvier 2017 qui en a fait la révélation, et donc ces faits ne sont pas prescrits. Seconde QPC, elle porte sur les contours du délit de détournement de fonds publics. Selon l'avocat François Fillon, il ne s'applique pas aux personnes investies d'un mandat électif public. Le tribunal a donc suspendu l'audience jusqu'à demain après-midi, le temps de se prononcer sur ces deux QPC. Deux possibilités, soit les magistrats renvoient au moins l'une d'elles à la Cour de cassation, et dans ce cas-là, le procès est renvoyé, c'est peu probable, soit les deux sont rejetés et l'audience reprend demain avec les premières explications des prévenus.
Antoine Marette, merci. Quelle réponse la loi peut-elle apporter aux risques terroristes ? Depuis plus de deux ans, une mission sénatoriale suit l'application de la loi SILT du 30 octobre 2017, un texte conçu pour renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. La mission estime que les quatre mesures temporaires de la loi peuvent être reconduites au-delà du 31 décembre 2020. Ces dispositions avaient été critiquées au motif qu'elles ne respecteraient pas les droits et libertés fondamentales. Et puis les sénateurs ont présenté une nouvelle proposition de loi relative, celle-là, au suivi des personnes condamnées pour terrorisme à l'issue de leur détention. Les explications de Florence Turm.
Ils seront 45 détenus condamnés pour terrorisme à sortir de prison après avoir purgé leur peine d'ici la fin de l'année et une soixantaine d'autres en 2020. Des sorties sèches qui inquiètent les spécialistes. Le procureur national antiterroriste estime nécessaire de voir les textes évoluer pour garantir des contrôles et des mesures de sûreté efficaces. Et c'est exactement le sens de cette mesure de surveillance socio-judiciaire imaginée par la commission sénatoriale et son président LR, Philippe Bas.
L'individu ne pourra pas sortir de telle commune, ne pourra pas rencontrer telle personne, sera obligé de pointer au commissariat ou à la gendarmerie plusieurs fois par semaine. Il sera soumis à une exigence de formation, accompagné dans la recherche d'un emploi, devra se soumettre à une évaluation régulière de sa dangerosité et le juge d'application des peines pourra renouveler la mesure tous les ans pendant 20 ans. S'il s'agit d'un ancien condamné pour un crime et pendant 10 ans pour un délit. Ainsi, on ne laissera pas dans la nature des individus qui, sous prétexte qu'ils ont purgé leur peine, seraient sans surveillance alors qu'ils seraient dangereux.
Une mesure de suivi socio-judiciaire similaire à celle qui existe pour les délinquants sexuels. Elle pourra même inclure un placement sous bracelet électronique. Mais les sénateurs insistent, il ne s'agit pas d'une peine supplémentaire. Manière de prévenir en amont les critiques susceptibles de ressurgir au nom des libertés fondamentales. La proposition de loi devrait être déposée dans les tout prochains jours.
Florence Turm, merci. Dans l'actualité politique, la candidate Marine Le Pen dévoile ses propositions sur la sécurité. À 27 mois de l'élection présidentielle, la chef du Rassemblement national a présenté aujourd'hui un premier livre blanc sur la question. Elle entend consacrer 2 milliards d'euros sur 5 ans pour lutter contre l'insécurité. Un programme qui serait financé d'abord par des économies budgétaires. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Marine Le Pen a pris soin de présenter son livre blanc avant celui du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Avant Christophe Castaner, oui, et à quelques semaines des municipales, la présidente du RN souhaite ainsi montrer que c'est elle qui incarne le mieux ce sujet de la sécurité. Ce livre blanc s'annonce le premier d'une longue série en vue de poser les jalons pour 2022. Et en ce qui concerne les 60 pages de ce matin, 95 mesures à feuilleter. Beaucoup sont reprises du programme frontiste de 2017, comme le rétablissement des peines planchers ou la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Parmi les nouveautés, un crédit d'impôt pour l'installation de systèmes de protection des habitations pour les particuliers, un dispositif de plainte immédiate ou encore l'obligation pour les villes de plus de 10 000 habitants de se doter d'une police municipale armée. Enfin, il y a un gros volet carcéral. Marine Le Pen annonce un centre éducatif fermé par département, la création de 5 centres pénitentiaires spécifiquement dédiés aux détenus présentant des troubles psychiatriques et des centres pour les peines de courte durée, justifie-t-elle.
C'est pas le tout d'arrêter des délinquants ou des criminels. Encore faut-il que la justice condamne et que l'incarcération mette à l'écart de la société ceux qui doivent l'être. Or, c'est bien souvent beaucoup plus au niveau de la justice et de, évidemment, la saturation de notre système pénitentiaire que se pose cette problématique.
Et en termes de mise à l'écart, Marine Le Pen promet une mesure qui intéressera sans aucun doute le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la mise en place d'un uniforme carcéral pour, je cite, « les détenus définitivement condamnés » qui apparaîtront ainsi symboliquement comme en dehors de la société.
Anne Fauquemberg, merci. Je reviens un instant sur l'actualité liée au coronavirus. Le dernier jour du carnaval de Nice, qui devait s'achever samedi, a été annulé à titre préventif. C'est ce que vient d'annoncer le maire de Nice, Christian Estrosi. Et même si pour l'heure, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans la ville de Nice. Le temps demain sera quelque peu hivernal. 9 départements placés en vigilance orange pour la neige et le verglas sont concernés, les régions Hauts-de-France et Grand Est. Les chutes de neige seront abondantes sur les reliefs des Vosges et du Jura. Ailleurs, c'est la pluie et un temps gris qui s'imposeront sur presque toutes les régions. Les températures minimales seront comprises entre moins 1 et 9 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 4 à 16 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.